Pierre-André Vallat, une première question qui me vient dans cette rencontre, avant la préparation de ce concert, on aura des questions à poser en même temps sur l'organisation d'un concert symphonique, comment ça s'organise. On va fêter les 90 ans de Pierre Boulez. Vous avez un rapport à l'histoire et à Explosion de Fix. Il y avait Laurence Beauregard qui était son grand flûtiste. Vous avez été dans Explosion de Fix, vous êtes partie des trois flûtistes. C'était vous qui avez la partie, je crois, soliste principale.
Oui, en effet, ça remonte aux années 80. Laurence Beauregard était à l'époque flûtiste à l'Ensemble Intercontemporain. C'était un très proche de Pierre Boulez. Et il avait la particularité, ce flûtiste, de s'intéresser énormément à un champ plus large que son instrument simple. Il était à l'IRCAM responsable du projet Flûte Midi. Il avait eu cette idée de lier la flûte à l'ordinateur. Il avait initié ce projet à l'IRCAM. Et malheureusement, il est tombé très gravement malade. Et je l'ai remplacé, bon, d'une part en tant que flûtiste moi-même à l'Ensemble Intercontemporain durant deux saisons. Mais surtout, j'ai repris son travail à l'IRCAM. Pierre Boulez m'a confié la coordination du travail qu'avait entrepris Larry Beauregard. Donc on a continué à travailler et ça se faisait à l'époque en liaison avec une pièce, avec un compositeur qui était Philippe Manoury. Il y avait à l'époque à l'IRCAM le grand informaticien Miller Pocket. Vraiment les séances étaient absolument passionnantes parce que évidemment on se voyait tous les jours dans le studio pour cette pièce. La pièce s'écrivait au fur et à mesure. Philippe écrivait sa pièce, donnait des instructions à Miller qui programmait. À l'époque c'était pas du tout les langages objets qu'on connaît maintenant et les logiciels Max MSP tel qu'il est aujourd'hui. C'est lui qui l'a inventé d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était des lignes de code tout simplement. Et je dois dire que c'était absolument fantastique de voir ce gars travailler parce que il résolvait ce qui était demandé par le compositeur à une vitesse absolument incroyable. Tout ça en écrivant des lignes de code auxquelles évidemment, moi par-dessus son épaule, je ne comprenais absolument rien. Et on testait en direct le résultat sonore. Je m'occupais évidemment de la coordination, non pas de la fabrication parce qu'elle était fabriquée déjà, elle était le principe était là, mais il fallait ce qu'avait donné Larry quand j'ai commencé ce projet. Ce qui était en place, c'est la structure. On savait que c'était possible. Il avait donné, je me souviens, il avait réalisé l'accompagnement par l'ordinateur d'une sonate de Handel pour flûte qu'il avait joué avec cette flûte MIDI. Donc ça fonctionnait. On savait que ça fonctionnait. Mais il y avait des tas de choses à faire, notamment transférer le système sur une flûte qui était une bonne flûte, alors que c'était au départ sur un instrument, mais il fallait tester, donc c'était un instrument d'étude qui ne convenait pas pour le concert. Et il fallait s'occuper de l'interface aussi, donc il y avait Michel Starquier à l'époque à l'IRCAM qui s'était occupé de l'interface, il y avait Michel Ducoureau qui fabriquait les petites pièces qui tenaient les aimants, on avait fixé des aimants sur les clés de la flûte, qui étaient tout à fait réglables pour que la détection se fasse exactement au moment où elle était effective au niveau sur le plan sonore. Enfin bref, c'était absolument pour moi un univers tout à fait passionnant et tout à fait passionnant aussi parce que on créait en direct avec tous ces aspects qu'il fallait coordonner, on créait vraiment une œuvre musicale qui était Jupiter de Philippe Manoury, dont j'ai donné la création. Je ne me souviens plus en quelle année maintenant, mais à la fin des années 80, j'imagine. Et ensuite, tout ça a été un travail préparatoire à Explosion de Fix. Et lorsque Jupiter a été un succès, Boulez a su qu'il pouvait utiliser cet instrument dans Explosion de Fix, ce qu'il a fait. Donc les séances de travail n'étaient plus avec Philippe Manoury en studio, mais elles étaient avec Pierre Boulez, et ça c'était vraiment des grands moments, bien sûr.
Oui, c'est le moment où on a ces deux grands artistes. On voit toujours Pierre Boulez trônant sur l'IRCAM, mais en fait, j'ai toujours, mais il y avait Philippe Manoury. En fait, il y avait une espèce d'émulation entre les deux compositeurs absolument étonnante.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que Manoury vraiment défrichait l'espace. Il était vraiment très, très engagé et il était très en prise avec les possibilités de l'électronique, plus que Boulez lui-même. Les travaux de Manoury ont été fondateurs pour ce qu'a fait Boulez avec Explosion de Fix après, bien sûr.
Et alors après la flûte, vous êtes venu comment à la direction ?
Comment est-ce qu'on passe la flûte à la direction d'orchestre ? Je dirais qu'il y a deux facteurs. Un facteur qui est complètement fortuit et un facteur qui est là de longue date. La direction d'orchestre m'a toujours intéressé. Quand je jouais, je me souviens, à l'Ensemble Intercontemporain, on avait des chefs qui étaient vraiment extraordinaires et puis d'autres qui étaient plus ordinaires. Et j'étais fasciné de regarder les deux types de chefs, Camboulez ou Edvesh ou d'autres dirigés. Je trouvais fascinant le rapport du geste et du son, mais je ne pensais pas du tout que j'allais faire de la direction moi-même. Hein. C'était une chose qui me fascinait, mais qui était vraiment j'étais un bon instrumentiste, j'avais pas de raison de vouloir autre chose. J'étais très heureux comme ça. Et j'étais professeur dans un conservatoire de la région parisienne à l'époque, qui était dirigé par un compositeur qui s'appelait Sergio Ortega, et qui avait eu la riche idée de proposer pour sa classe de composition un concert qui n'était pas comme chaque année, il faisait un concert pour les élèves de composition, mais cette année-là, il avait décidé d'organiser ça un petit peu plus professionnellement et d'engager tout ce que le Paris pouvait compter de meilleurs instrumentistes pour jouer les pièces de ses élèves. Donc il a engagé ses instrumentistes. Et un jour, je rentre dans son bureau et je le trouve vraiment avec une tête vraiment terrible. Et je dis, mais Sergio, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je viens de faire une bêtise absolument incroyable et j'ai même honte de te la dire tellement elle est énorme. J'ai engagé tous ces merveilleux musiciens, ils sont formidables, etc. On a besoin d'un chef et j'ai complètement oublié. Le concert est dans 3 semaines. Et tout d'un coup, il a levé son regard vers moi et il m'a dit, mais pourquoi tu dirigerais pas ça? Pourquoi tu le ferais pas? Et je dis, donne-moi les partitions, je te réponds dans 24 heures. Et donc j'ai pris les partitions et j'étais dans un état de à la fois d'excitation et de peur terrible. Et puis j'ai dit oui, je pensais que je pouvais le faire, donc j'ai essayé, j'ai tenté ma chance, et évidemment je suis arrivé à la première répétition dans ces musiciens comme un bébé, quoi. Enfin, j'étais habitué à être un instrumentiste reconnu et à ne pas être mis en question de quoi que ce soit quand j'arrivais devant les musiciens. Or là, j'étais vraiment un tout débutant, et ça a pas trop mal marché, donc je me suis dit, pour mon développement de musicien, j'ai envie de réitérer cette expérience, parce que c'était une belle expérience. Donc j'ai fait 2 ou 3 concerts comme ça, dans des cadres complètement estudiantins. Et ensuite, j'ai eu envie d'aller plus loin. On a, avec Philippe Hurel à l'époque, on a créé Court Circuit, qui était au départ, j'ai pas fait le lien entre le... J'ai pas créé Court Circuit spécialement pour diriger moi-même, mais le premier concert de Court Circuit, d'ailleurs, a été dirigé par Pascal Roffet. Je jouais de la flûte dans ce concert. Et ensuite, j'ai naturellement pris la direction de cet ensemble, et c'est vraiment avec eux que j'ai appris à diriger, en fait. C'est là que j'ai pu développer. J'avais une exigence en tant qu'instrumentiste qui était grande, bien sûr, mais je ne savais rien de la direction. Et ce sont eux qui m'ont appris ça. Et j'ai aujourd'hui une affection absolument immense pour les musiciens de cette époque et pour cet ensemble en particulier. Cet ensemble que j'ai quitté en 2008, d'ailleurs, après 16 années de direction musicale, et je l'ai quitté pour rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas de raison particulière de mon départ, mais je me suis dit, ça fait 16 ans que je suis directeur musical de cet ensemble. Je connais toutes leurs qualités, ils connaissent tous mes défauts, donc il faut passer à autre chose, et j'avais envie d'autre chose. Donc je suis parti, et je suis parti à un moment où ça allait bien, parce que je pense que c'est un très bon moment pour partir quand les choses vont très bien. Il ne faut pas attendre que les choses se dégradent. Et voilà, donc j'ai développé les choses avec ces musiciens au départ. Et petit à petit, les engagements extérieurs, la réputation, le bouche à oreille a fait que les engagements extérieurs sont arrivés. Et puis ensuite, il y a eu le déclenchement de l'arrivée dans ma vie de mon agent. Ah, ça a été complètement, ça a été une révolution, parce que comme musicien, enfin le public ne sait pas forcément ça, mais vous n'avez pas les engagements avec les orchestres, avec les grands orchestres en tout cas, si vous n'avez pas d'agent. Et cet agent qui était Andrew Rosner à Londres a vraiment changé ma vie. Il m'a ouvert des portes, notamment à l'étranger, très peu en France. J'ai relativement peu dirigé en France. Je me réjouis d'autant plus du concert de la semaine prochaine avec l'Orchestre Philharmonique de cette semaine, donc du 6 mars. Pour cette raison-là, je dirige très très peu à Paris. Je dirige beaucoup à l'étranger, mais je mène une vie aujourd'hui qui est très heureuse. Alors, la liaison avec la flûte, c'est donc entre la flûte et la direction d'orchestre, c'est une liaison qui s'est faite tout à fait en douceur pour moi. Je n'ai pas tout d'un coup, je me suis pas réveillé un matin en disant « je veux être chef d'orchestre ». Ça s'est fait vraiment complètement naturellement. Ça a été une démarche très très naturel, très simple, et qui s'est échelonné sur environ 5 années, entre 1990 et 1995. Et en 95, j'ai définitivement arrêté la flûte parce que je n'avais pas le temps de maintenir, pour jouer d'un instrument à un haut niveau, j'avais pas le temps de maintenir. Il faut travailler tous les jours et c'était plus possible, tout simplement. Donc il fallait faire un choix et donc ce choix a été fait, mais il a été fait en douceur, tout simplement.
Donc une formation presque sur le terrain, c'est des premiers pupitres en fait quand on regarde un ensemble de musique contemporaine. Et comment on passe à l'échelle de l'orchestre ?
Alors mon premier engagement d'orchestre, ça, c'est très particulier aussi, c'est une belle histoire. J'avais rencontré un directeur artistique de Perth en Australie, qui était directeur du festival de Perth. Et le festival international de Perth, c'est un festival très important, comme ils savent le faire dans ces pays, Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Ce sont des pays qui sont assez reculés du reste du monde. Et leurs festivals sont très intéressants parce que ils ont à cœur d'amener les meilleures choses du reste du monde chez eux. Il avait décidé, ce directeur de festival, de monter la tour en Galilée. Et il avait entendu parler de moi, et il voulait me rencontrer à Paris. Et on s'est rencontrés dans un café à Paris, et on a parlé, et il m'a posé des tas de questions, et il y a eu un lien vraiment tout à fait immédiat avec cet homme, qui est rentré en Australie en disant à l'orchestre, à Perth, on va faire la tour en Galilée de Messiaen. Cette tour en Galilée symphonie, c'est Pierre-André Valade qui va la diriger. Et l'orchestre a immédiatement répondu, mais Pierre-André Valade, on ne connaît pas, qui sait, enfin, nous avons des chefs avec qui nous travaillons, qui sont très bien, en qui on a confiance. Et il a eu cette phrase qu'on m'a rapportée après, ça sera Pierre-André Valade ou il n'y aura pas de concert. Ça, c'est une chose qu'on n'oublie pas et j'ai toujours gardé pour cette raison et pour d'autres raisons aussi. C'était vraiment un homme extraordinaire. Il est décédé il y a très peu de temps, il y a quelques mois d'ailleurs, et ça m'a rendu très très triste. Il a eu cette confiance, comme ça, il voulait que je dirige ça. Donc je suis arrivé à Perth pour diriger la Tour en Galilée Symphonie, pour diriger pour la première fois un orchestre d'une centaine de musiciens. Il y a 103 personnes dans cette œuvre. C'était pour moi une chose énorme, donc j'avais évidemment préparé la partition comme du mieux que je pouvais, et c'était des dizaines et des dizaines d'heures de travail pour moi, parce que c'était très nouveau, évidemment. Et je me souviens dans l'avion qui m'amenait en Australie, le voyage est assez long, c'est environ 24 heures, donc j'avais le temps, et j'avais pris cette partition dans l'avion avec moi, et je la relisais, et je l'avais tellement bien préparé, c'était une grande forme bien sûr, et puis c'était une œuvre en plusieurs mouvements, 21 je crois, où tout ça me paraissait très familier, donc j'étais prêt, donc ça m'a un petit peu calmé. Mais la première répétition, c'était une partielle corde. Pour moi, une partielle corde, moi j'étais habitué à avoir une partielle corde avec, allez, s'il y avait du vent, il y avait 12 personnes, quoi, 11 personnes, 11 cordes, mais là il y en avait 60. Et évidemment, et donc j'ai eu un choc en rentrant dans la pièce. Et je me suis dit, mais voilà, il faut commencer. Le travail a commencé, voilà. Et c'était tout était en même temps très nouveau pour moi. Et je m'étais tellement préparé, ça représentait tellement pour moi. Ça s'est très bien passé. Et puis après, je suis revenu plusieurs fois diriger cet orchestre. Les premières comme ça restent toujours des moments dont on se souvient avec beaucoup d'affection, finalement. J'ai encore présent à l'esprit aujourd'hui, c'était en 1996, je crois, ça fait 19 ans aujourd'hui, et j'ai encore aujourd'hui les visages de certains musiciens à l'esprit, je n'oublie pas ça.
Donc là, les contraintes de la Tour en Galilée sont énormes, dans les cordes, le contrepoint, les unissons et la rythmique.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors la rythmique, moi j'ai toujours été très à l'aise avec ça, donc ça me faisait pas peur, mais enfin il y avait beaucoup de percussions, et à l'époque, je commençais seulement à diriger, je connaissais assez mal le monde de la percussion finalement. J'étais un très bon rythmicien, mais je connaissais mal toutes les subtilités des instruments de percussion, Dieu sait si elles sont nombreuses. C'était vraiment une expérience, c'était le baptême du feu, en fait.